Alors, bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce panel qui s'appelle Israël, résister à la colonisation. Juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous signale que ce soir à 19h à la Bourse du Travail de Saint-Denis, il y a un panel qui s'intitule Lénine de la théorie à la pratique avec Tariq Ali, Andreas Malm, Mathieu Renaud et Antonio Negri. Voilà, donc c'est à 19h à la Bourse du Travail. Et donc maintenant, on a Michel Ciboni, donc de l'UJFP, donc de l'Union juive française pour la paix. Du coup, j'en profite pour signaler le dernier recueil de textes de l'UJFP qui a été publié, qui s'appelle « Une parole juive contre le racisme ». Et du coup, les clips, des clips vidéo, en fait, sur le même thème, qui vont sortir... qui vont être diffusés normalement demain à la fête de l'UMA. Ensuite, nous avons Jean Stern, qui est journaliste et qui est aussi membre de l'UJFP, qui a récemment publié ce livre « Mirage gay à Tel Aviv », donc aux éditions Libertalia, qui a sorti très récemment, au printemps 2017. Et enfin, Imen Habib, qui est animatrice de la campagne BDS, donc « Boycott des investissements sanctions France ». Donc du coup, il va y avoir des interventions d'une vingtaine de minutes et ensuite on aura tout le temps pour discuter ou voilà, poser des questions. Donc je vais d'abord laisser la parole à Michel Ciboni.
Bonjour et merci d'être là. Moi je vais parler des enjeux du boycott des investissements sanctions, du BDS contre le régime israélien, dans le cadre de cette réflexion « Penser l'émancipation ». Et je me contenterai de poser quelques questions ou quelques réflexions qui nous intéressent ici en France, puisque après tout on est en France, et plus globalement. Alors, première question qu'on peut se poser, et c'est le titre d'un ouvrage qui s'appelle « Un boycott légitime » de Eyal Sivan et Armel Labouri, dont je vous recommande la lecture et qui est sorti à La Fabrique. Le boycott est-il un outil légitime ? Alors, on le sait, c'est un outil de contestation politique et un outil de résistance pratiqué à tous les niveaux, gouvernementaux parfois, avec des embargos, des blocus, des mesures contre des entreprises ou par des entreprises, par des individus. Les exemples historiques abondent. 18e siècle, le boycott de la Grande-Bretagne par les colonies britanniques d'Amérique, qu'on appelait le boycott du thé, qui a été repris en Irlande au 19e siècle. Le boycott du sucre américain par les marchands anglais abolitionnistes, fin du XVIIIe siècle. Début du XXe, le boycott indien contre l'Empire britannique, demandé par Gandhi. On a eu le boycott des commerces juifs par les nazis en 1933. Ça, c'est les boycotts d'État. On a eu le boycott des États arabes contre Israël après 1948. On a eu le boycott dans les années 60 des bus d'Alabama contre la ségrégation raciale aux États-Unis. On a eu le boycott appelé par l'ANC contre l'apartheid en Afrique du Sud entre 1958 et 1994. On a eu le boycott de la Birmanie qui vient d'être réactivé avec l'appel au boycott des vêtements Primark contre le massacre des Rohingyas. Et depuis 2005, on a la campagne boycott des investissements sanctions contre Israël. Le boycott est un outil qui a donc pu être utilisé au gré de celui qui l'a manipulé, surtout quand il s'agit d'un boycott gouvernemental d'ailleurs, contre ou pour des causes du peuple. Mais il est aussi et surtout l'outil des populations affaiblies, des mouvements de résistance, et a été pratiqué dans le cadre de nombreuses luttes pour l'émancipation, comme nous le voyons dans la liste évoquée ci-dessus. Le boycott a fait ses preuves comme outil dans les luttes d'émancipation, notamment anticoloniales. Il a émancipé ceux qui le pratiquaient en restaurant leur dignité, les faisant passer d'objet à sujet, capables d'exiger leurs droits dans une lutte pacifique et citoyenne. Cette émancipation du fait du boycott, je pense qu'elle nous concerne aussi ici en France. Je veux dire, pratiquer le boycott, ça émancipe celui qui le fait. L'analyse du boycott d'une... Alors ça, c'est un autre élément que je voulais partager avec vous. Il y a un document qui a été fait par une sociologue qui s'appelle Flore Trautmann en 2004, qui suivait le boycott de la multinationale Danone. Ce document est intéressant parce qu'à ce moment-là, Libération avait ouvert ses pages à des échanges sur ce boycott qui était parfois contesté, parfois soutenu. Et Flore Trautmann, elle a travaillé sur ce que disaient les gens dans cet échange de... Il y avait à peu près 300 intervenants, quand même, c'était assez consistant comme objet d'étude. Et elle fait apparaître des raisons qui m'ont paru intéressantes et en rapport avec notre sujet. C'est pour ça que je vais les citer. Son document s'appelle « Pourquoi boycotter ? Logique collective et expression individuelle, analyse des systèmes de représentation à partir du cas Danone ». D'abord, un paramètre qui est récurrent dans les interventions des gens qui pratiquent ce boycott à ce moment-là, ou en tout cas qui échangent dessus, c'est la transformation du rapport du citoyen à la politique, la perception du déclin de l'État associé à la mondialisation, la dénonciation du pouvoir croissant des firmes multinationales face aux politiques, font se multiplier les recherches et nouvelles formes de régulation des marchés. C'est un premier élément. Effectivement, le déclin de l'État et de la réglementation, y compris au niveau du droit international, ça fait partie du BDS. C'est la non-prise en charge par le droit international et par les États d'une question qui donne envie d'intervenir par le boycott. Le deuxième paramètre, c'est le développement d'une consommation engagée, le constat, à nouveau, le déplacement des lieux de pouvoir, du pouvoir politique vers le pouvoir économique, pour suggérer une transposition ou un élargissement du pouvoir du citoyen au pouvoir du consommateur, du pouvoir du bulletin de vote à celui de l'achat. Et le dernier élément, qui me paraît le plus proche de nous, pour les défenseurs du boycott, l'impuissance du politique est un argument central. Et là, elle cite directement des gens qui intervenaient sur le site de Libé, sur les pages de Libé, « Si la législation n'est pas prête à défendre les employés, Alors la solution du boycott semble inévitable. On ne peut pas laisser la logique capitaliste faire abstraction de l'homme. Le boycott semble dès lors utilisé par défaut. Il frappe au cœur d'un pouvoir sur lequel le politique, dont les citoyens, par le vote, a perdu toute emprise. C'est une des grandes motivations du BDS que cette idée des défaillances des États qu'il s'agit de combler. D'ailleurs, un rapide examen, par exemple, de la liste des sanctions économiques et financières pratiquées par l'Union européenne contre de multiples pays, liste qu'on trouve sur Internet, hein, c'est pas du tout compliqué. Il y a une trentaine de pays sanctionnés par l'Union européenne. Israël ne figure pas dans cette liste des États sanctionnés, ni financièrement, ni économiquement. On peut aussi remarquer que ces États ont autorisé de nombreux boycotts, ou pratiqué de nombreux boycotts, sauf celui d'Israël. Donc, au contraire d'une idée fréquemment véhiculée qui serait qu'on n'en veut qu'à Israël, ou qu'on ne boycotte qu'Israël, ou qu'on ne veut de sanctions que contre Israël, la situation de la réalité, de l'examen des faits, c'est qu'on boycotte tout le monde sauf Israël, qu'on sanctionne tout le monde sauf Israël. C'est-à-dire qu'il y a une exceptionnalité accordée. Exceptionnalité qui a une tendance à devenir une norme dès lors qu'il s'agit d'Israël. Par exemple, alors là, les exemples abondent aussi, on a eu des rapports effacés. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas de tentative de législation. Le rapport Goldstone sur Gaza 2009 a été absolument vidé de toute consistance et non pris en compte. Les nombreux rapports de missionnaires européens à Jérusalem ou dans les territoires occupés ont été suspendus et effacés, ou cachés, non publiés. Le dernier rapport de Richard Falk et Virginie Tillier à l'ONU a été retiré sur pression. Donc on a affaire à un refus de réagir devant des violations outrancières du droit international, avec un silence médiatique organisé. Je peux donner des exemples de silence médiatique. À part les militants qui ont entendu parler de la grève de la faim de 1000 prisonniers palestiniens de 33 jours jusqu'en mai dernier, en France, hein, je veux dire, dans nos médias, qui sait que Gaza est privé d'électricité depuis juin dernier par Israël ? qui a entendu parler de Salah Hamouri, citoyen franco-israélien, franco-palestinien, pardon, arrêté arrêté à nouveau et sans accès à son dossier, etc. Qui a entendu parler du retrait de nationalité effectué sur des bédouins du Negev, qui sont des citoyens israéliens, à qui du jour au lendemain on explique qu'ils ne le sont plus, en leur expliquant qu'en fait à l'époque où on leur avait donné la citoyenneté, on s'était trompé. Donc on revient sur... C'est donc un traitement d'exception qui est réservé à Israël et qui renforce en fait le boycott par les sociétés civiles. Et tout cela fait écho au dernier paramètre qui est évoqué dans le rapport de Flore Trautmann, qui est la défaillance des États. Alors pourquoi, c'est une autre, deuxième question, pourquoi le BDS contre Israël est-il délégitimé ou criminalisé ? Pour aller vite et droit au but, je dirais que c'est le refus de la vision anticoloniale qui soutient. On a une profonde division idéologique qui se met en place dans nos sociétés. Et il faut insister là-dessus, en effet. Ce sont nos sociétés qui sont concernées aujourd'hui par le BDS et le droit au boycott, puisqu'elles répondent à l'appel palestinien, comme à l'époque, on avait pu répondre à l'appel de l'ANC. C'est donc une vision de la solidarité internationale qui est attaquée. Et c'est à nous qu'on veut interdire le BDS, il ne faut pas l'oublier. C'est l'anticolonialisme qui est porté par le BDS qui est visé, parce que le sionisme est un mouvement colonial, et c'est un colonialisme, je dirais, d'abord européen. On est à la veille de l'anniversaire de la déclaration Balfour, qui met en place ce colonialisme sioniste en Palestine, qui permet de le mettre en place. Le clivage chez nous, dans nos sociétés, se fait donc sur sioniste, colonialiste, raciste, versus anti-sioniste, anticolonialiste, antiraciste. Je vais évoquer la première mission qu'on avait faite à l'UJFP avec des militants de la TMF, l'Association des travailleurs maghrébins de France, en 2002, parce que à ce moment-là, Michel Barfsevski, un militant anticolonialiste israélien, nous avait en quelque sorte donné le cap de cette mission judéo-arabe, la première que nous effectuions en Israël-Palestine en 2002. En expliquant que nous voulions faire la preuve, ou que nous serions la preuve, que la ligne démarcation qu'on voulait faire passer à l'époque, en 2002, on était en plein néoconservatisme de Bush, hein, entre juifs et arabes, ou entre Occident et Islam, pouvait se déplacer et devenir une ligne de démarcation entre le droit et le déni du droit. Et que dans cette ligne de démarcation-là, juifs et arabes pouvaient se tenir du même côté. J'ai envie d'étendre aujourd'hui et de dire juifs, arabes, musulmans, chrétiens, blancs, tout le monde. C'était un peu prémonitoire de la situation mondiale d'aujourd'hui, autour du BDS. La revendication majeure d'égalité clive le monde entre les racistes sionistes et les antisionistes anticolonialistes. On vient d'en avoir une illustration merveilleuse avec Charlottesville, où les suprémacistes blancs, au fond, ont fait un excellent travail d'éclaircissement, en départageant clairement le sionisme qu'ils soutiennent des juifs qu'ils détestent, puisque les suprémacistes blancs sont à la fois sionistes et à la fois antisémites. Et du coup, on a eu sionistes et antisémites dans le même camp, avec en face les Noirs américains de Black Lives Matter et les Juifs progressistes anticolonialistes qui luttaient contre le racisme ensemble. Ce qui s'est passé à Charlottesville me paraît exemplaire de quelque chose qui pourrait nous arriver en France, et ce serait d'une certaine manière un bienfait, éclaircir les situations et empêcher les amalgames. Parce qu'après tout, on peut parler de suprémacistes juifs en Palestine. Et aussi, autre chose, on ne doit jamais oublier que le plus grand collectif sioniste mondial n'est pas juif. Il s'agit des 40 millions d'individus états-uniens, évangélistes, chrétiens. Nous affrontons donc tous aujourd'hui un pouvoir mondial, mondialisé, réactionnaire, impérialiste, colonial. Et là aussi, lors de la même mission en 2002, quand Michel Barfsevski nous disait qu'il s'agissait de reconquête coloniale du monde, d'une certaine manière, je crois que les choses sont aujourd'hui quasiment démontrées. Les choix de notre propre gouvernement en France sont clairs, et sur l'égalité sociale, hein, et sur le sionisme, et sur le racisme. Imposer le sionisme, c'est imposer l'inégalité structurelle, le racisme, le suprémacisme blanc ici, juif là-bas, comme modèle. D'ailleurs, la ministre israélienne de la justice, Ayelet Shaked, vient de le revendiquer d'une certaine manière lors d'une conférence qu'elle a tenue en Israël fin août, les tout derniers jours d'août, contre la Cour suprême israélienne, au fond qu'elle accuse de trop bien vouloir respecter les droits de l'homme. Et ce qu'elle y a dit est intéressant quand même. Voilà. Pour elle, dans les décisions de la Cour suprême, le sionisme et les défis nationaux sont devenus un point aveugle légal qui ne porte pas de poids décisif en comparaison des questions des droits individuels. Les décisions de la Cour suprême ne prennent pas en compte les questions de démographie et de majorité juive comme des valeurs qui doivent être prises en considération. Et elle dira plus loin, le sionisme ne devrait pas continuer, et je l'affirme ici, il ne continuera pas, à s'incliner devant le système des droits individuels, interprété de façon universelle, qui les sépare de l'histoire du Parlement juif, de la Knesset, et de l'histoire de la législation que nous connaissons, c'est-à-dire de la législation de l'État juif, et non pas de l'État de tous ses citoyens. Donc soutenir le sionisme en France et ailleurs, c'est faire des juifs, pour reprendre l'expression de Laure Montagu, lorsqu'il s'exprimait contre la déclaration Balfour au moment de sa publication, faire des juifs des étrangers dans leur pays et des colons, devrait-on rajouter aujourd'hui. L'antisionisme, faut-il le rappeler, a d'abord été une idéologie massivement juive. Les enjeux du BDS pour nous. Et ce sera mon dernier point. Je suis en retard ou je suis
allé ? Non, c'est pas de souci.
Parce que je me sens en train de galoper.
Non.
La répression du BDS est aujourd'hui mondialement amorcée. Mais elle a été très précoce en France, sans doute parce qu'en France, on n'était pas protégé comme aux États-Unis par le premier amendement. On a des particularismes en France contre le BDS. Le premier cran de pénalisation est intervenu en France, par rapport au reste du monde, même avant Israël, avec la circulaire à Guillaume-Marie. Mais il a... On a aussi, en France, on pourra en parler, enfin, Imen en parlera sûrement, une grande faiblesse du mouvement universitaire et du BDS universitaire ou culturel, alors que ce BDS universitaire est extrêmement fort aux États-Unis. On a un rôle des Juifs faible en France, bien que mon association fasse partie des rares organisations juives qui appellent au BDS, alors que ce rôle est réellement conséquent et prégnant aux États-Unis, mais le judaïsme américain n'a pas du tout la même histoire que le judaïsme français. Ça peut s'expliquer. Et on a un cran de pénalisation qu'il faut articuler avec un clivage qui se dessine et qui s'approfondit dans la société française de non-convergence entre le mouvement de solidarité avec la Palestine traditionnelle et les associations racisées, pour le dire vite. Ce clivage s'est ressenti de manière extraordinairement forte pendant l'opération, comment ils l'ont appelée, celle de 2014, bordure protectrice, où on a vu le ministère de l'Intérieur interdire des manifestations et en autoriser d'autres. Et là, on voyait clairement qu'il interdisait des manifestations entre guillemets arabes, c'est-à-dire populaires, portées souvent par des associations racisées, etc., et qu'il autorisait les manifestations entre guillemets blanches, c'est-à-dire organisées et portées par le mouvement de solidarité, entre guillemets de nouveau officiel sur la Palestine. Ce clivage-là a un rapport avec la répression du BDS. BDS croise. Pour nous, alors, la question de l'état d'urgence permanent en France et de la réduction des libertés, puisque c'est la liberté du boycott qui nous est, dont on veut nous priver, entre autres dans le package des libertés qui sont en train de se réduire. Il croise la question du terrorisme et du colonialisme. Les militants anticolonialistes sont aujourd'hui comme des militants syndicaux victimes de répression. Il croise la question de la mise au pas sociale généralisée. Il croise aussi la question de l'émancipation mondiale. BDS est aujourd'hui, et là je cite Eyal Sivan et Armel Labori dans Un boycott légitime, c'est un label mondialement connu qui fonctionne sans organisation centralisée, sans organigramme ni chef, un mouvement polymorphe et rhizomique. Il doit son expansion aux centaines d'initiatives, d'événements et d'actions menées à travers le globe qui influencent l'opinion publique et provoquent un débat mondial, réussissant même à peser sur des pouvoirs aussi implacables que ceux des multinationales. Qui d'autre l'a fait ? Ça, c'est moi qui le dis. Il fait désinvestir des banques, des fonds de pension, il intègre de très grands syndicats dans le monde, des États parfois, comme la Norvège, la Suède. Mais en même temps, 21 des États des États-Unis tentent de faire adopter des législations anti-BDS. En Europe, le Parlement européen a adopté la définition de l'IHRA. IHRA, c'est International Holocaust Remembrance Alliance. Une définition sur l'antisémitisme qui l'amalgame dans les exemples qu'elle donne d'antisémitisme avec la critique d'Israël, c'est-à-dire avec l'antisionisme. Ce rapport a été adopté par le Parlement européen, il a été adopté en Angleterre et en Autriche. Cette définition risque de s'étendre encore. Il y a là un bras de fer féroce qui nous concerne tous, parce que si nous perdons, nous faciliterons l'adoption de la définition de l'IHRA, une nouvelle définition de l'occupation aussi. L'ambassadeur des États-Unis en visite en Israël vient de parler de territoires prétendument occupés. Il facilitera l'effacement de la question palestinienne comme question coloniale au profit d'une vision raciste et religieuse promue par Israël et ses soutiens. Mais BDS cumule des victoires qui font de lui le principal ennemi désigné par Israël aujourd'hui. Il provoque cette extraordinaire mobilisation contre lui. Il fait partie de la ligne de front internationale entre la colonialité du monde et le mouvement décolonial. Il doit encore grandir, être rejoint par des forces encore frileuses en France. Les grands syndicats français sont encore bien timides, comme une partie du mouvement de solidarité avec la Palestine. BDS est directement lié à la place faite aux Arabes dans ce pays et à l'islamophobie, ou à la lutte contre l'islamophobie. J'ai parlé des manifestations de Gaza. Mais tant que dans ce pays, les Arabes et les musulmans seront d'éternels suspects d'islamisme, de terrorisme et de communautarisme, cette partie de la population n'aura pas accès aux politiques concernant la Palestine et on se servira d'elle pour l'interdire à tous. Il est lié à la vision néoconservatrice sioniste, le droit de tuer tous les jours, on tue tous les jours en Palestine, le droit de voler la terre, le droit à la colonisation et l'exploitation, le droit au non-droit. Ici, on peut dire que la contrainte du pouvoir judiciaire est en marche depuis la circulaire Alliot-Marie, puisque les parquets ont fait appel systématiquement de décisions de justice qui étaient favorables, dans leur écrasante majorité, aux militants accusés de BDS. De la même manière que le parquet est en train de faire appel systématiquement des décisions plus souples concernant les délinquants solidaires sur les questions des migrants. BDS est aujourd'hui à l'intersection entre les sociétés civiles, d'un bras de fer qui est entre les sociétés civiles mondiales et la gouvernance économique ultralibérale qui est au pouvoir, entre la colonialité de notre monde efface et blanchit le colonialisme israélien, reconnaît l'apartheid comme une forme valide et légitime de gouvernance, impose la violence d'État aux classes, races opprimées. Tout ce qui est consenti là-bas, Gaza, les persécutions directes des Palestiniens par les colons, les meurtres quotidiens, les lois discriminantes, la dénationalisation des citoyens, tout ce qui est fait en Israël, Israël présenté comme un modèle de démocratie occidentale ici, tout ce qui est consenti le concernant, l'acceptation de l'état d'exception permanente ne peut manquer d'être intégrée par la gouvernance européenne occidentale. Les exemples sont multiples de ces applications. La seule chose qui n'est pas consentie aujourd'hui, c'est la résistance à ces ravages. En tant que porteur de changements globaux contre la généralisation de l'état d'exception, nous allons vers une époque où nous devrons compter sur nous-mêmes, notre nombre, notre capacité de résistance et d'unité autour d'un programme décolonial, social, politique, exigeant l'égalité. L'enjeu BDS est devenu aujourd'hui un enjeu de résistance internationale, voire un germe parmi les germes de révolutionnaires possibles dans le monde. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Et donc, justement, pour continuer aussi sur BDS, du coup, je vais laisser la parole à Iman Habib.
Moi, je vais un peu revenir sur les fondements de la campagne BDS, ses objectifs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la campagne BDS, et c'est important aussi de revenir un peu aux fondamentaux. Les défis auxquels elle fait face, notamment les attaques juridiques. Et là où on en est aujourd'hui au niveau de nos campagnes et des initiatives qu'on mène en fait dans le cadre de cette campagne. Alors cette campagne BDS, elle a été lancée en 2005 par plus de 170 associations de la société civile palestinienne. C'est vraiment toujours important de rappeler que c'est à l'initiative de la société civile palestinienne, donc des associations de femmes, des syndicalistes et beaucoup d'autres mouvements autour de cet appel. Il a été lancé, et ça aussi au niveau de la symbolique, c'est important, un an après l'arrêt de la Cour internationale de justice qui demandait le démantèlement du mur de l'apartheid. Voilà, donc ça c'est dans ce contexte-là que ça a été lancé. Et il fait référence aussi à la lutte victorieuse contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ça aussi, ça exprime une certaine vision des Palestiniens au lancement de cette campagne BDS. Alors la campagne BDS, elle ne prend pas position pour un ou deux États. Ça, c'est vraiment aussi, pour nous, la question de l'autodétermination du peuple palestinien, elle est vraiment très importante, puisqu'il y a encore beaucoup de gens, et même dans les débats, on entend parler de un ou deux États, etc. En vérité, c'est nous, on insiste vraiment beaucoup sur la notion d'autodétermination, parce que c'est au peuple palestinien de décider, et pas à nous, à leur place. Alors c'est une campagne internationale, qui existe partout dans le monde, ça aussi c'est important de le rappeler, aux États-Unis, en Europe, au Maroc, au Japon, vraiment international. Et il y a aussi, il faut le rappeler aussi, des anticolonialistes israéliens, notamment il y a un collectif qui s'appelle Boycott From Within, qui ont un site internet d'ailleurs que vous pourrez voir, avec lesquels on travaille, qui sont malheureusement pas nombreux, mais ils existent et ils font un travail important. Et bien sûr, les Palestiniens qui ont lancé cette campagne BDS avec lesquels on travaille étroitement. Alors en France, on a lancé la campagne BDS en 2009. Il existait des actions BDS ici ou là avant 2009, mais on s'est dit que c'était... en fait, le déclencheur, ça a été l'opération Plomb Durci à Gaza, qui avait fait plus de 1500 morts. On s'est dit que c'était le moment vraiment de coordonner une campagne unitaire, large, autour de la question du boycott. Et que c'était le moment était venu en fait. Et donc très rapidement, il y a des organisations et des comités qui se sont joints à cet appel. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'organisations et de comités partout en France qui relayons l'appel de la société civile palestinienne pour le BDS. Et j'ai oublié de vous présenter aussi les trois revendications, parce que dans l'appel BDS, il y a trois revendications principales. La première, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens. Le deuxième objectif, c'est l'égalité pour les Palestiniens d'Israël. Donc on sait aujourd'hui qu'ils sont lourdement discriminés de manière institutionnelle et structurelle par l'État d'Israël. Et le troisième objectif de l'appel BDS, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens, qui là aussi est un droit inaliénable des Nations Unies. Et à ce sujet, il faut savoir aussi que les réfugiés palestiniens représentent la part la plus importante de la population palestinienne aujourd'hui. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Voilà, donc on s'est créé en 2009 et on mène différentes campagnes. Alors, il y a un volet culturel. Donc là, il s'agit d'écrire, par exemple, des lettres à des artistes français, puisque chaque campagne BDS fait son travail dans les différents pays. Nous, par exemple, au niveau culturel, à chaque fois qu'on entend qu'il y a un artiste qui va jouer en Israël, on lui écrit systématiquement parce que le gouvernement israélien, on le sait, et ça a été dit par Yael Sivan et Armel Labori dans le livre « Un boycott légitime », se sert des artistes et reconnaît se servir des artistes pour essayer de redorer l'image de l'État d'Israël. Donc c'est pas un boycott dirigé contre des individus, ça aussi c'est important de le rappeler, mais c'est vraiment... contre la propagande du régime israélien qui se sert des artistes. Il y a aussi un boycott universitaire, et là, Michel l'a dit, on est vraiment faible là-dessus. Et là, on est à Paris 8 aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un vrai travail à faire dans les universités, parce que, et c'est une stratégie aussi ces dernières années, de développer des partenariats dans les universités françaises et israéliennes. Donc ça, il y a vraiment, vraiment un travail là où on est, à faire à ce niveau-là aussi. Ensuite, il y a un boycott au niveau syndical. Là, il s'agit de mettre en avant la situation qui est faite aux travailleurs palestiniens. et aussi d'informer sur le principal syndicat israélien qui est la Histadrut et qui est un syndicat raciste et avec lequel malheureusement travaillent beaucoup de syndicats en France. Donc petit à petit on essaie de faire ce travail en tout cas de pédagogie et d'information sur ce qu'est la Histadrut pour faire en sorte de rompre aussi ces échanges avec la Histadrut. Il y a un boycott économique, bien sûr, c'est celui dont on entend le plus parler, le boycott des produits, notamment des fruits et légumes. Le principal aujourd'hui exportateur de fruits et légumes s'appelle Méadrine. On le voit dans les supermarchés, mais voilà, c'est le principal, on va dire, fournisseur de fruits et légumes israéliens. Voilà, ça c'est un peu sur le volet du boycott. Et bien sûr, il y a aussi une campagne très importante qui est celle de l'embargo militaire contre Israël. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça a un impact directement sur la vie des gens. Et là, ça fait le lien aussi avec le désinvestissement, c'est le dé du BDS. Mais il faut savoir que le désinvestissement, ça consiste à demander notamment à des entreprises françaises. Et là, clairement, on demande aux entreprises françaises de rendre des comptes sur leur business qu'elles font avec Israël ou dans les colonies. Et je vais vous donner des exemples. Vous avez peut-être entendu parler de la campagne qu'on a menée en direction d'Orange. C'est une campagne, en fait, qu'on a menée parce qu'Orange avait installé des antennes dans les colonies israéliennes qui sont illégales au regard du droit international. Et donc, on a mené une grande campagne en France pour demander à Orange de se retirer des colonies et d'arrêter ce partenariat. C'est une campagne qui a duré plusieurs années. C'est une campagne qui s'est développée aussi en Égypte, où Orange avait des contrats en Égypte. Et c'est une campagne qu'on a remportée. C'est un exemple de victoire en France, là où on se mobilise, là où on met de l'énergie et on met de... Ça peut fonctionner. Et ça fait partie du désinvestissement. Aujourd'hui, on mène une campagne en direction d'AXA. AXA, c'est un assureur français qui a des liens dans les colonies israéliennes, mais qui a aussi des investissements via sa filiale dans Elbit Systems, qui est la principale société d'armement israélienne. Elbit Systems utilise du phosphore blanc sur la population civile de Gaza. En fait, vend à l'armée israélienne du phosphore blanc, par exemple, sont des armes interdites. Et là, il s'agit aussi de demander des comptes aux dirigeants de ces entreprises, parce que la réponse qui nous a été faite, justement, concernant AXA, c'est que ça ne rentre pas dans leurs critères d'armes controversées. Donc c'est ce genre de réponse auquel la campagne est confrontée fréquemment, en fait. Et là, il s'agit effectivement... De faire connaître ce genre de propos et ce genre de choses, de réponses, en fait, vis-à-vis de tout ce qui est éthique, etc. Voilà, ça, c'est un exemple aussi, AXA, de désinvestissement qu'on mène. On mène aussi une campagne en ce moment, vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'il y a eu une petite campagne qui s'est menée sur Paris 8, en direction d'Hewlett-Packard, donc c'est les imprimantes, principalement, etc., Hewlett-Packard, il faut savoir qu'ils arment la marine israélienne. Leur système est utilisé par la marine israélienne, la même qui va attaquer des pêcheurs à Gaza. Hewlett-Packard équipe électroniquement le mur de l'apartheid en Cisjordanie. Hewlett-Packard est installé aussi dans les colonies israéliennes. Donc voilà, c'est ce genre d'entreprise. Alors ça, c'est plutôt une multinationale, mais c'est ce genre d'entreprise aujourd'hui que la campagne BDS vise. Certaines sont grosses, certaines sont moins grosses, mais elles sont toutes impliquées. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises impliquées aujourd'hui et qui croient qu'elles peuvent impunément faire du business sur le dos du peuple palestinien. Et ça, c'est ça aussi que nous, on dénonce et contre lequel on se bat. Et dans le S de BDS, donc il y a bien sûr les sanctions. Donc là, il s'agit d'exiger des sanctions contre Israël. Michel l'a dit tout à l'heure, à quel point il y a une impunité de la part, concernant Israël spécifiquement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on se bat aussi. Effectivement, en France, au niveau juridique, ça a commencé depuis le lancement de la campagne. Autant à l'échelle internationale, c'est plutôt récent, la répression contre les militants BDS est plutôt récente, autant nous, on y a fait face dès le début de la campagne. En 2009, on a eu la circulaire dont parlait Michel tout à l'heure, la circulaire Alliot-Marie. Cette circulaire, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que nous, depuis le début, on sait qu'il s'agit surtout d'instrumentalisation de la justice. Parce que cette circulaire, elle est tellement politique qu'elle mentionne précisément qu'il faut poursuivre systématiquement ceux qui appellent au boycott d'Israël. Donc elle ne mentionne pas, par exemple, le boycott en général, elle ne mentionne pas ceux qui vont boycotter la Chine par rapport à la situation au Tibet, ou ceux qui vont boycotter le Mexique. Elle est tellement politique, et là on ne peut plus parler de justice en fait, on ne peut plus parler de... je veux dire, ça a été fait spécifiquement pour les militants de la campagne BDS, et ça part de là. Donc non, nous aussi il y a quelque chose qui est très important, c'est que non, la campagne BDS n'est pas illégale. On fait face à une instrumentalisation de la justice, et on fait face à des intimidations aussi, mais non, la campagne BDS n'est pas illégale, parce qu'il y a eu des procès, et il y a eu des relax. Il y a eu, par exemple, la Cour d'appel de Paris qui avait jugé que le boycott d'Israël relevait de la liberté d'expression. Il y a eu aussi des condamnations. Il y a eu une condamnation à Mulhouse en cours de cassation, mais cette décision va à la Cour européenne des droits de l'homme, donc ce n'est pas terminé de toute façon. Et par ailleurs aussi, il n'y a pas de loi spécifique au boycott d'Israël, donc pour toutes ces raisons, et aussi pour l'instrumentalisation de la justice qui est faite vis-à-vis des militants BDS, cette campagne, elle n'est pas illégale et elle est très importante en termes de solidarité avec le peuple palestinien encore à développer. Voilà, donc je parlais au niveau de la répression, au niveau juridique. Je pense que, en tout cas, ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui en termes de répression, on peut dire clairement que la France a été un laboratoire de la répression des militants BDS. Ça ne fonctionne pas puisqu'on continue à se mobiliser, on continue à se développer. C'est très important de continuer le développement de la campagne BDS, même si c'est difficile, même si c'est un contexte particulier. Il y a un contexte, ça a été dit, d'état d'urgence visant à freiner nos libertés aussi. Mais c'est important de continuer la campagne BDS parce qu'elle fait aussi partie de notre liberté d'expression. Ici en France également. Voilà. Donc aussi, c'est important de continuer. Il y a une spécificité, on va dire, en France aussi, à développer la campagne BDS, parce que souvent, on entend trop souvent en fait dans le discours ici que c'est un conflit qui concerne des Juifs et des Arabes. Et la campagne BDS finalement rappelle que c'est un conflit politique, et ça c'est vraiment aussi important en termes de pédagogie, que c'est un conflit politique, que c'est un conflit colonial, que c'est un conflit entre un peuple occupé et un peuple occupant. Et donc de ce point de vue là la campagne BDS aussi fait un travail de vivre ensemble, participe au travail de vivre ensemble aussi en France sur la question d'expliquer que non, ce n'est pas un problème entre des Juifs et des Arabes, c'est un problème politique, c'est un problème colonial, et que ce problème il s'est déjà passé par le passé, et que c'est vraiment un problème colonial. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est toujours important de rappeler aussi les raisons politiques qui ont motivé l'appel BDS. Voilà, donc je crois que j'ai terminé. Michel a dit déjà beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Et donc enfin, je vais laisser la parole à Jean Stern, donc autour de son livre « Mirage gay à Tel Aviv ».
Oui, ben bonjour à tous et à toutes. D'abord, de fait, Michel a parlé au tout début de son intervention du silence médiatique, et je pense que c'est une question évidemment extrêmement intéressante, parce que le silence médiatique veut dire qu'aujourd'hui, on ignore à peu près tout de ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, et on ignore à peu près tout de ce qui se passe autour de l'énorme appareil assez fascinant de propagande israélienne développé autour de la question du séjour gay touristique officiellement à Tel Aviv, qui en réalité depuis 3-4 ans maintenant est évidemment un séjour touristique, toujours est un séjour ludique, est un séjour plaisant pour les gays occidentaux qui s'y rendent, mais est de plus en plus un séjour politique. Et en soi, le pinkwashing dont je traite dans ce livre, qu'on pourrait traduire simplement par lave plus rose ou lave le plafond en rose, ou comprendre le terme qui vient du greenwashing, qui a consisté pour les grandes entreprises à mettre des plantes vertes dans les halls ou à faire je ne sais quelles opérations plus ou moins financières autour de la taxe carbone pour s'exonérer de leur responsabilité dans l'exploitation par ailleurs des terres dans un processus pour rejoindre Michel, aussi largement coloniale en Amérique du Sud et en Afrique et en Asie notamment. Bref, le pinkwashing a été conçu par le gouvernement israélien comme l'arme absolue anti-boycott. Et le fait est, et c'est ce que j'ai voulu raconter et analyser dans ce livre, que de ce point de vue-là, c'est plutôt un succès auprès d'une communauté qui a par ailleurs muté, et donc Israël a eu la finesse de l'analyser lucidement, a par ailleurs muté dans le monde occidental. Donc, de fait, pour commencer, d'abord pour comprendre ce que c'est que l'occupation. Le 27 août, on a fêté, entre guillemets, le 50e anniversaire de l'ordonnance militaire 101. L'ordonnance militaire 101, c'est ce qui règle le droit de manifester, la liberté d'expression dans les territoires palestiniens occupés, donc depuis 50 ans, qui interdit entre autres les rassemblements de plus de 10 personnes, qui interdit l'utilisation d'images politiques, de drapeaux, d'emblèmes favorables à la cause palestinienne, qui interdit les hymnes, chansons, films et pièces de théâtre qui présenteraient une image favorable aux Palestiniens. Bref, voilà 50 ans maintenant que les territoires israéliens, que la démocratie israélienne, entre guillemets, je vais mettre des guillemets là, Michel, que la démocratie israélienne vit sous un régime d'exception auprès duquel les mesures qui s'accumulent dans des pays comme la France, et pas seulement, sont des mesurettes, on va dire. Le deuxième fait, il s'est passé à Paris il y a moins d'une semaine, puisque c'était dimanche dernier. Le Beit Avarim, qui est une organisation LGBT de la communauté juive parisienne, a fêté ses 40 ans, je crois, avec une grande rencontre, un grand colloque, des événements festifs, etc. Une grande rencontre avec l'ambassadrice d'Israël à Paris, et il y avait toutes sortes de représentants. Il y avait des représentants de l'inter-LGBT qui organisent la Pride du mois de juin à Paris, gays et lesbiennes évidemment. Il y avait des élus de la mairie de Paris, gays évidemment. Il y avait des nouveaux élus de La République En Marche, des députés, gays également. Bref, autour de l'ambassade d'Israël, autour d'un soutien affiché à Israël, vous aviez des représentants de la gauche sioniste, on va dire, la mairie de Paris, des représentants des libéraux, les républicains, et évidemment des représentants de la droite et l'extrême droite, en l'occurrence l'ambassadrice d'Israël, qui est elle-même liée aux courants les plus à droite du gouvernement israélien aujourd'hui. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui tout ça peut se passer à Paris sans aucune espèce de problème, sans aucune espèce de protestation, sans aucune espèce de rendre compte. Alors moi, qu'est-ce qui m'a conduit à m'intéresser au pinkwashing, et à développer les 2-3 arguments que je vais vous donner autour de cette idée de résister à la colonisation et de voir comment aujourd'hui, en Israël, pour les gays et les lesbiennes israéliens et arabes, pour les gays et lesbiennes palestiniens en Israël, comme dans les territoires palestiniens occupés, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de résister au rouleau compresseur de la mondialisation, de la globalisation et de cette espèce d'homonationalisme qui domine la scène et que je vais appeler plutôt nationalisme sexuel. Donc, de fait, m'ont conduit à m'intéresser particulièrement à cette question du pinkwashing. Le premier, il a pour cas de la France à nouveau, c'est 2013, tout premier jour de juin 2013. Vous avez le premier mariage entre deux hommes qui est célébré à Montpellier, à la mairie, par Hélène Mandreau, la maire de Montpellier, en présence de Najat Vallaud-Belkacem, qui à l'époque est porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes, en présence évidemment des caméras de télévision du monde entier, et les deux garçons qui se marient, qui sont des militants locaux de l'inter-LGBT de Montpellier, qui sont là pour l'un organisateur de la Pride de Montpellier, là, qui est la manifestation gay annuelle, etc., vont être repérés au sens propre du terme par la chargée de communication du maire de Tel Aviv, qui est un ancien général de l'armée de l'air. Tous les politiciens israéliens, rappelons-le, sauf Netanyahou, sont d'anciens militaires et d'anciens militaires de carrière, pour les plus importants d'entre eux. Et donc cet ancien général de l'armée de l'air, réputé d'ailleurs à Tel Aviv comme un homophobe notoire, racontant partout il y a 20 ans encore, très récemment, que voir deux hommes s'embrasser, pour lui c'était quelque chose d'absolument dégoûtant. Et donc le même homme, en 2013, va inviter à Tel Aviv les deux jeunes mariés français, les premiers mariés homosexuels français, à venir passer leur voyage de noces à Tel Aviv. Ça indique quelque chose. Ça, d'abord, qui est très important, c'est que dans la plupart des villes du monde, les manifestations gays autour du mois de juin, ce qu'on appelle les Prides, sont organisées par un tissu associatif, avec souvent des subventions municipales ou de concours de subventions municipales. Tel Aviv est la seule ville au monde où la Pride est organisée directement par la municipalité, c'est-à-dire organisée et financée, bien entendu. Non pas que ça soit forcément un coût cher. Le conseil municipal de Tel Aviv, un des conseils municipaux gays de Tel Aviv à qui j'ai parlé, m'avait parlé d'un coût d'environ 150 000 à 200 000 euros, mais c'est très symbolique. C'est-à-dire que c'est la ville qui organise, avec le soutien du gouvernement, avec le soutien, bien entendu, des hôteliers, du syndicat des hôteliers de Tel Aviv, qui, par ailleurs, avait un problème de fréquentation à cette période de l'année à Tel Aviv, puisqu'il y a deux grandes périodes de fréquentation des hôtels de Tel Aviv. La période de Pessah, c'est-à-dire la Pâque juive, qui est une période de grandes vacances en Israël où viennent des familles du monde entier, et évidemment le mois de juillet et le mois d'août où viennent des touristes occidentaux de France et d'ailleurs passer leurs vacances à Tel Aviv. Donc vous aviez ce double problème, et au fond, ces deux garçons qui se marient à Montpellier vont être invités, donc tout frais payés par la mairie de Tel Aviv, avion, et l'ambassadeur de France lui-même va les appeler le lendemain après le maire de Tel Aviv et va leur dire « les gars, venez donc loger à l'ambassade ». Donc ce voyage va devenir officiel, invité par la mairie, logé par la France, par l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur, et donc d'un seul coup, ce voyage officiel va faire admettre devant les médias du monde entier, et notamment les médias gays, qu'il n'y a pas plus gay-friendly aujourd'hui que Tel Aviv. Ça tombe bien parce que c'est exactement le sens de la campagne marketing qui est en train de se lancer en Israël depuis 2008-2009, et qui consiste donc à changer l'image d'Israël pour contrer évidemment l'occupation et pour contrer évidemment le BDS dont on ignore trop en France, et c'est très utile qu'on l'ait rappelé avant moi. On ignore trop en France à quel point il est important dans de très nombreux pays du monde, et que probablement nous sommes dans un pays où le BDS est à la fois criminalisé, évidemment, enfin l'acte d'appeler à boycott est criminalisé, et où on en parle évidemment très 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 peu dans les médias et très 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 peu dans les milieux culturels et universitaires, où c'est balayé d'une main en disant tout ça c'est des formes d'antisémitisme moderne et tout, argument qui d'ailleurs est tellement public que le président Macron lui-même l'a repris dans une curieuse cérémonie au Veldiv en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Donc cette espèce de convergence qu'on voyait entre la gauche sioniste, les libéraux, les mous, la droite, l'extrême droite évidemment, on la rencontre de manière encore plus chimiquement pure, si j'ose dire, à Auckland, et c'est vraiment ça qui m'a déterminé à écrire ce livre, en février 2015. Alors Auckland, ça va paraître très loin, mais Auckland, c'est la principale ville de Nouvelle-Zélande, et chaque année, il y a une parade à Auckland. Et en 2015, l'invité d'honneur de cette parade, ce qui a été expérimenté dans de très nombreuses villes, comme Berlin, comme Madrid, comme Copenhague, comme Londres, etc. Et donc l'invité d'honneur de la parade à Auckland cette année-là, c'est l'ambassade d'Israël, c'est Israël comme pays. Et donc Israël va défiler les fonctionnaires de l'ambassade, et je dis bien les fonctionnaires parce qu'évidemment, ils ne sont pas spécialement homosexuels, pas spécialement hétérosexuels, d'ailleurs on s'en fout d'une certaine manière de savoir qui ils sont. Ce qui est symbolique, c'est qu'ils défilent en tant que fonctionnaires, et donc d'une certaine manière, sur leur temps de travail, dans la Pride d'Auckland, mais ils sont quand même l'invité d'honneur, ils défilent même en deuxième rang dans la Pride d'Auckland, et pour rejoindre ce que disait Michel sur le contexte mondial, ils défilent juste derrière l'armée néo-zélandaise. Donc c'est le deuxième cortège, l'armée, et puis derrière l'ambassade d'Israël. Arrive à ce moment-là un petit groupe, sympathique à mes yeux en tout cas, de Queers Against Israeli Occupation, une quinzaine de personnes avec des perruques, avec des habits roses et verts, et qui vont déployer des banderoles et scander des slogans, contre l'apartheid israélien dans les territoires occupés et contre évidemment le pinkwashing et cette occupation. Et ces gens-là, ces militants-là, une quinzaine de personnes, garçons, filles, vont être passés à tabac par le service d'ordre de la manifestation, service d'ordre gay, je précise, service d'ordre gay d'un groupe qui s'appelle en Nouvelle-Zélande, mais qui existe très largement aux États-Unis, en Australie et dans plusieurs pays anglo-saxons, qui s'appelle les gardiens de la foi. Et donc ces gardiens de la foi, ces gardiens de la foi, qui sont des militants gays, qui sont des gays, ouvertement gays, vont casser la gueule à d'autres gays et des lesbiennes et des queers au nom de la défense d'Israël. Et quand je vois ça en 2015, j'étais pas au Auckland, mais évidemment les charmes de YouTube étant ce qu'ils sont, je vois immédiatement les vidéos, je me dis c'est pas possible. C'est-à-dire que là, il va falloir déconstruire cette opération et il va falloir la raconter, et il va falloir la raconter en ayant enquêté sur place, puisque je fais partie de, malheureusement, tous ces gens qui, bien que m'intéressant à les questions, me rendent compte que quand on ne va pas sur place, on manque énormément d'informations sur la réalité de la vie en Israël et en Palestine, sur les difficultés de la vie en Israël et en Palestine, et sur cet aspect des choses quand on dit résister à la colonisation, et pour en revenir au thème de la rencontre d'aujourd'hui, eh ben ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens en Israël et en Palestine qui arrivent à s'opposer à ce que je qualifie de rouleau compresseur gay? Alors, je ne vais pas refaire le bouquin, vous lirez, pour ceux que ça intéresse, en détail ce que je raconte, mais c'est vrai que c'est un rouleau compresseur, c'est-à-dire que c'est, comme toute opération marketing, c'est une cellule au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, qui s'appelle Brand Israël, donc vendre la marque Israël, c'est des budgets qui ont été renforcés dans tous les offices de tourisme de toutes les grandes villes. Le budget de l'office de tourisme israélien en France, depuis maintenant 9 ans, a été augmenté de 200 000 euros par an. C'est des opérations de marketing qui visent directement les médias gays et lesbiens, médias sur Internet, marketing direct dans les boîtes de nuit, participation et tournée de DJ israéliens, dans les principales capitales du monde, y compris à Paris, régulièrement. Vous avez des DJ israéliens qui viennent se produire dans des clubs soutenus, évidemment, parce qu'elle est très présente, par l'ambassade d'Israël, qui a même développé un site en français, que vous pouvez consulter quand vous voulez, d'ailleurs, si vous en avez envie, ce que je ne crains peut-être pas, mais qui s'appelle coolisrael.fr. Donc coolisrael.fr, ben, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, raconte exactement ça. Israël est un pays cool, Israël est un pays sympa, Israël est un pays de boîte de nuit, Israël est un pays de resto.
Hein? Tel à vivre.
Tel à vivre aussi, bien sûr, la campagne Tel à vivre, qui était une des campagnes. Toutes ces campagnes, le slogan de la ville de Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais, avec pour objectif de séduire les gays mondiaux et, au sens plus large, les hétéros branchés. Alors je dis les gays et pas les LGBT, parce que l'opération a directement visé d'abord ce public mâle dont on voyait depuis 2001, 2002, 2003, qu'il avait tendance à sérieusement basculer à droite, à basculer dans le nationalisme et dans l'homo-nationalisme. Et bref, d'une certaine manière, tout ce qui était la propagande israélienne autour de ce que j'appelle le mirage gay, et qui est assez intéressant à déconstruire, parce qu'en réalité, ce mirage gay ne couvre aucune réalité de la société israélienne. Quand la société israélienne vous dit qu'elle est gay-friendly, c'est entièrement faux. Tel Aviv a joué comme une histoire sociologique très ancienne qu'on a connue à Paris, qu'on a connue évidemment à New York, qu'on a connue évidemment à San Francisco. La tendance des gays des petites villes, des campagnes, des villes moyennes, etc., a monté à la capitale où, évidemment, les conditions de vie sont meilleures. Deux, c'est vrai, Tel Aviv a une caractéristique sociale qui est très largement liée au développement de la high-tech israélienne. On l'a rappelé avec Hewlett Packard, mais Hewlett Packard, c'est de la gnognotte, si je peux me permettre. Il y a des boîtes bien plus importantes qu'Hewlett Packard qui sont implantées en Israël, qui ont des labos en Israël et que vous utilisez, mesdames et messieurs, tous les jours, que ce soit Google, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple. Donc là-dedans, vous avez tout ça. Et évidemment, cette high-tech qui est liée à l'industrie de défense israélienne, qui a été dopée par l'Institut de défense israélienne, profite très largement, comme San Francisco, comme d'autres villes, à, d'une certaine manière, la gentrification de Tel Aviv, pardon, et au fait que Tel Aviv, aujourd'hui, a toutes les caractéristiques d'une ville occidentale bourgeoise et moderne, avec des bars, des boîtes de nuit, une relative peu importance des religieux, puisque Tel Aviv a toujours été, historiquement, depuis 1948, c'est construit par la gauche sioniste contre la droite religieuse qui était traditionnellement plutôt implantée à Jérusalem et dans le reste des villes. Donc, tout ce marketing, cette homophobie de la société, le cinéma, notamment le cinéma porno de Michael Lucas, mais aussi le cinéma de Mean Street, d'Ethan Fox et de bien d'autres, toute la réalité de l'enfermement des Palestiniens en Palestine, l'enfermement qui est triple des gays palestiniens. Il y a l'oppression spécifique de la société palestinienne, qui est une société conservatrice, traditionnelle, clanique, et qui ne facilite pas évidemment la vie des gays et des lesbiennes, mais il y a aussi l'enfermement liés à l'occupation israélienne. Vous ne pouvez pas bouger de vos villes, vous ne pouvez pas rencontrer des gens, vous ne pouvez pas vous exprimer librement sur le web et sur les réseaux sociaux, puisque quand vous vous exprimez librement sur le web ou les réseaux sociaux, l'armée israélienne d'un pays si gay-friendly, l'armée israélienne qui se définit comme la plus gay-friendly au monde, elle est, et c'est pas tout à fait faux d'ailleurs, c'est la deuxième armée au monde qui a donné des droits aux gays juste après l'armée des Pays-Bas, pays qui est reconnu mondialement pour sa tolérance. Donc cette armée gay-friendly, ce pays gay-friendly, ce pays qui pratique le pinkwashing à outrance, surveille les gays palestiniens via une unité qui s'appelle l'unité 8200, qui est la NSA, l'équivalent de la NSA israélienne, et qui écoute en temps réel des dizaines de milliers de Palestiniens et de Palestiniennes, surveillent leur communication sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Et évidemment, si un Palestinien ou une Palestinienne se trahit, entre guillemets, sur sa page Facebook ou même dans un mail privé, sur son compte Gmail ou autre, l'unité 8200 va s'emparer de lui ou d'elle, va tenter de la faire chanter, et si la personne refuse de collaborer avec la police et l'armée israélienne, on va la dénoncer à la police palestinienne et à sa famille, avec les risques de représailles inhérents, et si la personne collabore et que la police palestinienne l'apprend, là pour le coup c'est la mort certaine. Donc si vous voulez, voilà, on est sur une double situation, et on est sur une situation pour l'instant du côté des gays occidentaux en particulier, puisque je me suis intéressé spécifiquement à cette population, il y a peu de signes de résistance, il y a peu de signes de volonté de s'informer réellement sur ce qui se passe dans un pays sous occupation qu'est la Palestine et sur ce qui se passe dans un pays colonial qu'est Israël. Mais je dois dire que malgré toutes les insultes que j'ai rencontrées quand je rencontrais des gens à Tel Aviv, des gays occidentaux qui y allaient et qui me répondaient « Tu nous emmerdes avec ta Palestine, ça ne nous intéresse pas. » Et d'ailleurs, Israël a raison avec les Arabes. Les Arabes qui veulent chasser les Juifs d'Israël sont les mêmes qui nous attaquent dans nos banlieues, etc. Et là, on entend des phrases à la Marine Le Pen. Hein, les femmes, les homos, etc. Sont agressés, ne peuvent pas vivre dans les banlieues. Donc, ce corpus idéologique développé par le Front National est très largement accepté et relayé non seulement par la communauté gay, mais par les Israéliens. Et si je cite le nom de Marine Le Pen, c'est pas du tout un hasard, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez des rencontres. Louis Alliot, qui est le compagnon de Marine Le Pen, député européen, est allé deux fois publiquement, enfin semi-publiquement, et une fois au moins de manière, entre guillemets, privée, en Israël. Et en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évidemment rencontré les dirigeants de plusieurs colonies, ainsi que les dirigeants de plusieurs partis de la droite et de l'extrême droite israélienne. Le secrétaire général du Front National, qui s'appelle Nicolas Bay, était lui-même à Jérusalem et à Tel Aviv quelques semaines avant l'élection présidentielle, au mois de février-mars dernier. Enfin bref, voilà. Alors, pour en finir et pour vous donner quand même une petite note un peu positive et me rattacher à cette idée de résister à la colonisation, je dois vous dire que ce qui m'a le plus frappé dans l'enquête que j'ai fait pour ce bouquin, c'est que finalement, les opposants au pinkwashing, il y en a plus en Israël et en Palestine que partout ailleurs dans le monde. Et que donc, il y a quand même dans la société israélienne une radicalité aujourd'hui, dans la société palestinienne une radicalité qui ne demande qu'à s'entendre et à être connue. Elle est affaiblie. Elle est affaiblie parce que aujourd'hui, beaucoup de militants radicaux LGBT israéliens, mais aussi palestiniens, et aussi ce qu'on appelait autrefois les Arabes israéliens, qu'on appelle maintenant les Palestiniens de l'intérieur, sont en train de quitter purement et simplement Israël, pays qui est devenu extrêmement difficile à vivre. C'est des chiffres qui sont là encore peu connus, mais chaque année, il y a à peu près 15 000 juifs qui font leur alia, c'est-à-dire leur retour, entre guillemets, retour en Israël, leur retour à la terre. Et dans le même temps, il y a à peu près 50 000 Israéliens et Israéliennes, temps écoulé, donc je vais bientôt m'arrêter, 50 000 Israéliens et Israéliennes qui quittent Israël. Alors, avec des départs qui ne sont pas forcément définitifs, mais ils vont s'installer à Berlin, à Paris, à Londres, partout dans le monde, pour échapper à cette occupation, hein, à cette occupation et à cette lourdeur, à cette dureté de ce pays raciste, de ce pays colonial, dans la vie quotidienne, ce que ça fait peser sur vos épaules, et la difficulté de le combattre, tant le harcèlement est grand au jour le jour, tant c'est difficile, tant c'est lourd, ces gens-là se barrent le plus souvent en silence. Mais malgré tout, ben, vous avez des petits phénomènes qui commencent à se manifester à Tel Aviv. L'année dernière, le gouvernement avait voulu repeindre un avion d'El Al aux couleurs du Rainbow Flag, hein, le drapeau arc-en-ciel, pour amener les touristes pour la Gay Pride. Le coût de l'opération de repeindre l'avion était quand même de 3 millions d'euros, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et donc, oui, 3 millions d'euros. Et donc, il y a une petite mobilisation de quelques camarades gays et lesbiens de Tel Aviv qui ont gueulé, qui ont fait un peu de bruit, qui ont été reliés sur les réseaux sociaux. Et du coup, le gouvernement a annulé la peinture de l'avion et a rencontré une délégation des radicaux en leur disant que les 3 millions d'euros seraient affectés à des problèmes sociaux, notamment pour les trans, qui sont dans des situations extrêmement difficiles en Israël, confrontés à des triples peines ou quadruples peines, on va dire, pour les trans sur 5 ans. Donc la première partie de la somme, normalement sur la dette l'année dernière, les deux parties, aujourd'hui personne n'a mis la couleur d'un seul euro dans des programmes sociaux pour les trans en Israël. Donc voilà des choses qui se pratiquent régulièrement et voilà des choses contre lesquelles des gays israéliens jeunes, plus radicaux que le pinkwashing dégoûte, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, des organisations palestiniennes, Alco et Asfat notamment, basées à Jérusalem-Est, présentes dans les territoires, présentes dans la grande ville du nord d'Israël, Haïfa, etc., commencent à se mobiliser avec un tout petit écho en France. Alors, je vais citer trois exemples. Hein. Le premier, c'est l'apparition, là, cette année, au mois de juin, de Pink Bloc dans la Pride de Bordeaux, qui ont affiché des slogans clairement contre le pinkwashing et contre l'occupation israélienne et l'apartheid israélien. Ça, c'était le 17 juin à Bordeaux. Ça a été à la Pride de nuit à Paris, le 23 juin, avec la première apparition d'un groupe qui s'appelle LGBT pour la Palestine. Ça avait, mon livre, d'une certaine manière, qui a malgré tout lancé le débat, qui m'a valu pas mal d'insultes, dont vous imaginez la nature, mais aussi quand même pas mal de retours intéressants. Et puis, ça a été un truc très amusant, parce que Israël, et là on touche à la question du boycott culturel et du boycott intellectuel, etc. Il y a un festival, évidemment, dans le cadre de la Pride à Tel Aviv, vous avez un festival de cinéma, tous les ans au mois de juin, de festival gay, lesbien, du monde entier, des films du monde entier, qui est organisé par la Cinémathèque de Tel Aviv, qui est considéré à Tel Aviv comme un des bastions de la gauche, évidemment. Et John Trengrove, qui est un cinéaste sud-africain, qui a réalisé un très beau film que peut-être vous avez vu cet hiver, qui s'appelle Les Initiés, était l'invité d'honneur de ce festival, dont le film devait d'ailleurs faire l'ouverture. Ce garçon a envoyé quelques jours avant une déclaration aux organisateurs de festival en disant qu'il refusait que son film soit projeté à Tel Aviv compte tenu de la politique du gouvernement israélien à l'égard des Palestiniens et de la politique du gouvernement israélien dans les territoires occupés. Il a été suivi, ce qui n'est pas rien, par trois autres invités, dont une membre du jury et deux autres cinéastes, qui ont également retiré leur film du Tel Aviv Fest. C'était absolument rigolo pour moi de lire dans le Haaretz en anglais les protestations des intellectuels de gauche de Tel Aviv en disant « En retirant vos films, c'est nous que vous punissez, c'est la gauche israélienne que vous punissez, etc. etc. » En réalité, c'est intéressant parce que le film de John Trengrove, un producteur... une productrice d'ailleurs, plus exactement, c'est une coproduction française. Il y a énormément de films français qui sont coproduits par des Israéliens, donc il y a un poids très important d'Israël dans la production cinématographique. Il y a un poids très important d'Israël dans la production de séries aujourd'hui. Il y a énormément de séries, soit américaines, soit israéliennes, qui sont diffusées dans le monde entier, qui sont d'ailleurs produites principalement par une société qui s'appelle HOT, qui elle-même est une filiale de Patrick Drahi, du groupe Patrick Drahi, du groupe Altis, qui, comme vous le savez, exploite SFR, donc encore un truc qu'on pourrait boycotter dans nos téléphones portables, après Google et quelques autres. Donc je pense qu'il nous reste du boulot.
Merci beaucoup. Donc là, on a environ jusqu'à 16h15 pour avoir une discussion. Du coup, ce que je propose, histoire d'éviter les allers-retours, c'est de prendre une série de questions. Comme ça, les intervenants peuvent répondre d'un bloc et ensuite une autre série de questions, ainsi de suite. Du coup, si vous avez des questions ou des remarques éventuelles, voire des désaccords, faites-moi signe. Oui.
deux interventions. Ça a permis de clarifier des choses et je vais apprendre un truc. Je voulais savoir quelles étaient les répercussions du boycott sur, sur tout le boycott économique sur l'État d'Israël. Et aussi, vous avez parlé d'interdiction de pièces de théâtre qui valorisaient la peine des Palestiniens. Et c'est en Israël ou c'est en France ?
C'est en Israël.
C'est en Israël. Okay.
Et en Palestine, surtout en Palestine déjà.
D'autres questions ou remarques éventuelles ? Non. Oui, allez-y.
Comment se produit l'interdiction justement de ces pièces en Palestine, okay, sur le territoire palestinien ?
Je reprends une autre question éventuelle. Oui.
Oui, serait peut-être une question pour Hélène ou Michel, est-ce que tu pourrais nous donner quelques-uns des. Enfin, tu en as mentionné quelques-uns, mais des résultats, des victoires en fait de l'enquête.
Je pense que
tu en as mentionné une ou deux en passant, mais il y en a des.
Je prends une dernière question, après on passe aux réponses. Oui, vas-y.
Non, moi, c'est, je suis arrivé légèrement en retard, je ne sais pas si Michel Simon en a parlé, mais cette année, à partir du mois de juin 18, il va y avoir une saison France-Israël avec le milieu artistique qui est très mobilisé en faveur de cette saison. Il y a même une école d'art supérieure où les élèves sont obligés d'aller faire un spectacle avec, en Israël, ce qui pose des problèmes pour les élèves libanaises, ce qui est du projet. Bref, savoir s'il commence à y avoir des mobilisations sur cette question-là, parce que pour le coup, là, ça m'intéresse d'essayer d'y participer.
Je me permets juste de rajouter une question. C'est justement sur le boycott universitaire, en fait. J'habite à Strasbourg, on avait invité Eyal Sivan et Armel Laborie autour du livre. Et justement, en fait, en discutant avec eux, ils disaient à peu près la même chose que ce que vous avez dit, en fait, sur la faiblesse, en fait, du boycott universitaire en France et dans d'autres pays. Je sais qu'il y a des syndicats étudiants, vraiment, qui se sont saisis de la question, et y compris dans des grandes universités, dans certaines grandes universités. Du coup, comment vous expliquez la faiblesse éventuelle du cas français, en fait, sur les universités? Du coup,
parce qu'on a envie de commencer par là, moi.
Bah, du coup, je vous laisse répondre. Et puis,
parce que ça, c'est un des trucs que je voulais dire sur. Parce qu'on est dans une université et devant un public étudiant. C'est la même faiblesse, je dirais, que la faiblesse dans les mouvements sociaux. Moi, je viens d'une génération pour qui tout partait toujours des universités. Je veux dire, c'était des universités qui bougeaient, qui s'arrêtaient de travailler, qui faisaient la vie politique et le mouvement social, qui étaient les locomotives, et pas forcément les syndicats. Pour certaines époques, en tout cas, c'était évident. Aujourd'hui, il y a une faiblesse de l'organisation universitaire en France. Et puis, il y a l'acceptation que je trouve vraiment terrifiante des diktats universitaires. C'est très compliqué de parler de BDS dans une université. Là, vraiment, je m'étonne même sur Paris 8, parce qu'il est déjà arrivé que ce soit boycotté Paris 8, qu'ils interdisent dans la semaine internationale contre l'apartheid, qu'ils interdisent ici même la prise de parole. Alors, je sais pas, moi, je ne veux pas parler à la place des étudiants, mais moi, il me semble que c'est du même ressort, que c'est un problème global qu'on a. On a des universités peu mobilisées dans l'ensemble sur les problématiques sociales et peu visibles, et donc aussi peu mobilisées sur le BDS universitaire, alors qu'il y a quoi faire. La coopération franco-israélienne, elle est très forte dans les universités. Il y a eu au moins un précédent, c'était en 2006, je crois, ou en 2004, Jussieu, qui avait signé, dont le conseil d'administration avait voté un refus de coopération avec Israël.
Est-ce que je peux ajouter un
mot ? Ouais, bah, vas-y.
Il me semble que, enfin, je souscris tout à fait à ce que tu dis. Mais il me semble que la frilosité des étudiants, alors est-ce qu'elle dépend ou est-ce qu'elle est reliée, comment est-ce qu'elle est reliée, c'est vraiment une question intéressante. En tout cas, elle se reflète dans la frilosité des intellectuels en France aujourd'hui. Enfin, de manière générale, mon intellectuel en France, qui a cette fonction, le monde des enseignants, des professeurs d'université, voilà, des personnes.
C'est-à-dire, moi, j'aurais été plus dur pour les intellos et moins dur pour les étudiants.
C'est ce que enfin, voilà,
les intellos, on a une bande d'ultra qui monte au créneau sur l'antisémitisme chaque fois qu'on ouvre la bouche et qui est large.
Je ne parle même pas des intellectuels médiatiques, je parle des gens qui sont en poste, qui éventuellement, quand tu discutes avec eux, ont des positions en général plutôt correctes, bon, et qui ne se mouillent pas publiquement, voire qui freinent des personnes qui seraient prêtes à prendre.
Oui, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut faire masse. C'est-à-dire que tant qu'on est comme ça individualisé et isolé, que ce soit les profs ou les étudiants d'ailleurs, on a beaucoup de mal à être courageux, si j'ose dire, parce que c'est compliqué. Ça devient, il ne faut pas que ce soit dangereux pour soi-même non plus. Mais une université qui se met en grève sur une question comme celle-là, d'abord ça aurait de la gueule et en plus ça couvre tout le monde quand c'est tout le monde qui est en grève.
L'exemple de Rennes, il y avait la, c'était la, l'université, où c'est l'ambassadrice, qui est israélienne, qui l'a empêché de parler, qui est sortie presque tout.
Du coup, juste si Jean ou Imel voulaient aussi répondre aux autres questions aussi.
Oui, mais sur l'université, ça mérite de s'y arrêter un petit peu, parce qu'effectivement, c'est un enjeu clé. C'est d'autant plus un enjeu clé que c'est un endroit où l'ambassade d'Israël, et pour le coup, les réseaux pro-israéliens au sens large, vont mettre le paquet. Et là encore, l'exemple américain est extrêmement intéressant, parce qu'on voit bien que contre l'importance qu'a pris la campagne BDS sur un certain nombre de campus américains, l'importance qu'ont pris les groupes militants qui se mobilisent contre la politique israélienne, les quelques groupes qui existent dans plusieurs campus américains, à Berkeley, à New York University, à Chicago, de queer, c'est-à-dire de gays, lesbiennes, etc., trans, contre l'apartheid israélien, entraînent des contre-feux extrêmement importants aujourd'hui, et que donc, du point de vue du gouvernement israélien, il est clair que la bataille aux États-Unis se livre d'abord dans les facultés et dans les universités. Pour une raison très simple, qu'on ignore beaucoup en France, puisque là encore, on n'a pas exactement l'information qu'il faudra avoir, c'est que ces cinq dernières années, donc de manière assez récente, l'opinion américaine a basculé dans son soutien majoritairement favorable à la politique israélienne. Et donc, on est passé d'une opinion qui, dans les années 60, après la guerre des six jours, était très, très, très majoritairement favorable aux États-Unis, aux Israéliens, à plus de 70%, à aujourd'hui des chiffres qui sont plutôt de 48-52, avec 52% d'Américains qui désapprouvent la politique israélienne, et spécifiquement dans la population la plus jeune des Américains. Et donc, la question des facultés pour le gouvernement israélien est une question centrale, à tel point que vous avez énormément de voyages universitaires qui sont organisés avec des étudiants américains qui viennent en Israël, plus de 5000 sont invités chaque année. Vous avez des organisations spécifiques, une organisation qui s'appelle Wither Bridge, un pont trop loin, on va traduire comme ça, qui est une organisation LGBT chargée de promouvoir la bonne parole gay dans gay israélienne, évidemment, depuis Washington, dans les facultés américaines. Ils ont même fait une tournée tout récemment, là, au printemps, où ils ont envoyé le premier officier trans de l'armée israélienne qui sert précisément dans le Negev, dont parlait tout à l'heure Michel, Negev où, comme vous le savez, on nie l'identité des populations arabes, et on ne parle pas de 2000 personnes, là on parle d'environ 70 000 personnes, c'est-à-dire une population quand même très importante, et non seulement on nie leur identité, mais on nie leur terre, puisqu'aujourd'hui on est en train de développer dans cette région du Negev des villes israéliennes sur les territoires des Bédouins. Donc cette question de l'université, pour moi, elle semble très importante, et c'est vrai que c'est un lieu où on pourrait aujourd'hui plus se mobiliser, plus parler de la question israélienne. Et sur la question, pour en finir, sur la question des lois, y a énormément de textes. Le secteur de la culture en Israël est aujourd'hui un secteur qui est directement visé. Et donc, il y a l'ordonnance 101 qui interdit un certain nombre de spectacles qui seraient favorables à la cause palestinienne. Vous avez aussi une loi qui punit avec des amendes les artistes israéliens qui refuseraient de se produire dans les territoires occupés, qui refuseraient par exemple d'aller chanter, ou de monter une pièce, ou de monter un film, etc. Et donc, cette criminalisation de la parole d'opposition à la politique du gouvernement israélien aujourd'hui en Israël est quelque chose de très important qui provoque et de plus en plus massivement un certain exode d'artistes et de militants israéliens ou palestiniens de l'intérieur qui préfèrent aller vivre ailleurs que d'être censurés et harcelés en permanence, parce que il est difficile de se faire une idée ici, mais la violence quand même du harcèlement pratiqué en Israël contre les opposants à la politique du gouvernement est quelque chose de très très fort.
Quelques exemples. Bien sûr, tout au long des années, en fait, il y a eu beaucoup de succès, donc je ne vais pas tous les citer, mais je vais en citer quelques-uns en 2016, parce que c'est vrai que ça témoigne aussi de la diversité des campagnes aussi qui sont menées. Et je vais vous citer la première, ça me paraît vraiment un point très important, c'est des municipalités en Espagne. Il y a eu plus de 50 villes qui se sont déclarées Free Apartheid Zone, c'est-à-dire qui ont voté des motions de soutien à BDS. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment impactant et ça nous a donné des idées ici. Moi, je pense que c'est vraiment important de faire un travail ici. En France, il y en a eu 4 qui ont été votées en France pour l'instant. Le contexte est difficile, mais c'est vraiment encourageant. Il y a eu Bondy, c'était la première Bondy, ouais. Dans le 93. Il y a eu Ivry-sur-Seine. Il y a eu Saint-Pierre-des-Corps, c'est dans le 37. Ouais. Et la dernière, Clermont-Ferrand, voilà, en Auvergne. Donc ça, c'est vraiment c'est très important parce que ça fait aussi un lien avec les municipalités et aussi local, comment on peut agir localement. De ce point de vue-là. Et il n'y a pas que dans les municipalités, d'ailleurs, où c'est possible d'avoir des motions. Même dans les universités, il y a vraiment un travail aussi à développer de ce point de vue-là. Il y a G4S, vous avez peut-être entendu parler en France, ils sont moins connus. G4S, c'est une entreprise de sécurité qui équipe des systèmes de sécurité partout dans le monde, notamment beaucoup en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, c'était vraiment la cible prioritaire des militants britanniques. Et bien G4S, en 2016, s'est retiré du marché israélien, suite vraiment à une campagne intensive des militants et des militantes.
Parce que c'était eux qui organisaient la garde sur les checkpoints et sur les passages.
Voilà, ils équipaient aussi les checkpoints en Cisjordanie et les prisons israéliennes. Alors, aux États-Unis, ils ont beaucoup de fonds de pension. Il y en a énormément qui sont désinvestis. Et notamment des églises aussi aux États-Unis qui se sont désinvesties de Caterpillar, par exemple. C'est une cible des États-Unis parce que Caterpillar, ils sont aussi malheureusement impliqués dans des violations du droit international en Palestine. Il y a eu aussi les derniers Oscars, en fait, où il y a plusieurs artistes. En fait, Israël, dans sa propagande, offrait un voyage à ceux qui avaient les Oscars, en fait. Et il y a plusieurs artistes qui se sont nominés, qui se sont retirés, en fait, qui ont dit qu'ils ne participeraient pas au voyage organisé par Israël. Et je crois que je n'ai pas les noms exactement, mais il y en avait qui étaient plutôt connus. Et ça, c'était vraiment, en 2016, une belle victoire, quoi. Alors, il y a aussi beaucoup d'unions étudiantes au Chili, à New York, à Chicago, un peu partout dans le monde, à l'université d'Halifax au Canada, qui ont voté des motions de soutien aussi à BDS. Voilà, ça fait partie un peu des victoires qui ont été enregistrées. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à l'année France-Israël. J'ai oublié de le dire, mais effectivement, c'est malheureusement vrai. En fait, à l'heure où on va célébrer le triste anniversaire des 100 ans de dépossession du peuple palestinien avec Balfour, et ben cette année, on a l'anniversaire, on a la commémoration en 2018, on va avoir une commémoration France-Israël. Donc, ce n'est pas une blague, hein, c'est vraiment France-Israël. Donc il y aura tout un tas d'événements qui seront organisés en fait pour essayer de masquer la réalité de ce qui se passe en Palestine, évidemment. Mais ça sera aussi l'occasion de se mobiliser. Il faut savoir que dans beaucoup de villes, il y a eu des appels d'artistes ou de gens du monde de la culture ou du spectacle qui ont déjà fait des appels pour un appel au boycott culturel. Nous, on est en train de relancer ce travail-là, qui n'est pas facile, parce que comme le disait Michel tout à l'heure, c'est pas facile d'avoir des personnalités et des artistes en fait qui s'engagent. Et donc, on va faire ce travail-là parce qu'il est essentiel, parce qu'il a fonctionné dans d'autres pays, et on va quand même le faire en France. Et on va le faire aussi dans ce contexte de cette année de propagande France-Israël. Et on vous invite aujourd'hui, parce qu'on a besoin aussi de... Si vous avez des contacts avec des artistes, si vous avez envie de vous engager avec nous, de nous rejoindre. On est en train d'essayer de réfléchir justement à des initiatives pour contrer cette opération de propagande France-Israël. Donc on a besoin de toutes les bonnes volontés, et notamment de la recherche de personnalités ou même de professeurs ou d'autres groupes qui voudraient signer des textes pour s'engager contre cet événement, quoi.
Je peux rajouter deux mots?
Oui, bien sûr.
Il y a un rapport qui vient de sortir, ils appellent ça les rapports leaks, c'est-à-dire exfiltrés du gouvernement israélien, qui est une étude qui reconnaît qu'Israël a perdu la bataille de la propagande anti-BDS, c'est-à-dire noir sur blanc. Ils ont perdu la bataille de la propagande anti-BDS. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu la guerre, ni que nous avons gagné. Mais ça veut dire qu'on est, moi je disais tout à l'heure, bras de fer, c'est pas une blague, je veux dire. Le BDS avance, et le BDS avance, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un mouvement populaire, de base, qui, à tous les niveaux, qui fonctionne, et qui gagne énormément de choses. Il y a énormément de choses qui ont été gagnées. Les plus grands syndicats d'enseignants américains, où est la FSU ? Si on veut comparer, je veux dire, c'est ahurissant ce qui se passe en France quand même. Où sont les syndicats étudiants français ? Je veux dire, d'accord, on ne veut pas affronter le grand méchant loup, je ne sais pas quoi, mais enfin, au sein d'un syndicat étudiant, moi je ne suis plus étudiante, mais dans les syndicats où j'étais comme enseignante, on en parlait, on essayait de faire le travail au moins de l'information. Qu'est-ce qui se passe dans les syndicats étudiants ? Pourquoi on n'a pas des prises de position claires dans les universités ? Au moins des étudiants entre eux. Parce qu'il y a moyen de faire pression. Comment dire ? Une université qui se sent à l'aise parce que personne ne bouge, elle avance dans la coopération franco-israélienne. Une université qui sent qu'elle a une base qui chauffe et qui a pris des positions, qui a fait des déclarations, même si elles ne servent à rien pour le début, mais par accumulation, elle va devenir beaucoup plus frileuse sur les conditions de la coopération israélienne. Donc il y a moyen de faire du boulot. On n'est pas obligé de prendre des Kalachnikov en première étape. Il y a moyen de faire du boulot à de nombreuses étapes, y compris à l'étape la plus basique, qui est celle de l'interpellation de ses propres syndicats où qu'on soit. Et puis, je dirais que l'année France-Israël 2018, c'est pareil. Il y a la question du boulot que va faire la campagne de BDS culturel pour interpeller tous les éléments de la culture française qui vont collaborer avec cette saloperie. Mais il y a aussi la possibilité d'inventer et de faire des éléments, je dirais, de contre-culture. C'est-à-dire de prendre le contre-pied, de faire à côté, que ce soit dans la culture universitaire, mais que ce soit dans le théâtre, ou que ce soit dans les animations musicales, partout où il y en a. Il y a des choses qui bougent en France dans les groupes d'artistes, je dirais, pas de rue, mais d'artistes qui ne sont pas forcément des artistes qui occupent les grands plateaux. Il faut arriver à avoir une animation en France pendant cette année qui soit une véritable animation de contre-culture officielle. Deuxième tour.
Par ailleurs, je me verrais juste de rajouter quelque chose. Par ailleurs, l'organisation étudiante permet aussi de contrer le fait que quand on est dans une position... Un peu sensible, type doctorant, on a un financement, etc. Enfin, quand on est organisé syndicalement, ça aide aussi à lutter justement et à proposer des initiatives en fait sur les questions israéliennes, hein, puisque l'un des gros problèmes, c'est aussi on a l'impression ce que quelqu'un disait tout à l'heure, que les profs en fait les bougent pas trop, alors qu'ils sont que eux ils sont assez installés, qu'ils risquent pas grand chose. Mais du coup, je pense aussi que même les personnes, les doctorants ou les chercheurs précaires qui n'ont pas encore de poste, etc., ont intérêt aussi à, dans leur syndicat, dans leur mobilisation politique, etc., à essayer d'inclure cette question-là comme une question aussi principale, pas comme juste un centre d'intérêt. Ça permet de sortir aussi juste des individus qui ont des positions correctes, mais aussi d'avoir une position politique et justement de l'insérer dans l'université. puisqu'on est surtout dans la période actuelle où les étudiants et le monde universitaire de manière générale a aussi peut-être intérêt à bouger, que ce soit contre la loi de travail, etc. Mais dans ces dynamiques, d'insérer la question du sionisme et de l'anticolonialisme peut être chose intéressante. C'est aussi pour ça que c'est très bien que dans ce genre de colloque, il y ait un atelier sur Israël. Du coup, je prends... oui, allez-y.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur les effets du boycott économique.
Exactement.
Alors... Ouais, il y a eu des effets mesurables et mesurés, puisqu'il y a eu des statistiques. Alors moi, je ne les ai pas là, hein, mais je sais qu'il y a eu des statistiques israéliennes, d'ailleurs, qui montraient des baisses. C'était 11%.
Je ne sais plus exactement.
Sur l'agriculture, on a eu Agrexco qui s'est effondré, qui était le principal exportateur israélien de fruits et légumes, etc., en Europe. Il faut savoir que l'Europe est le premier partenaire commercial... économique d'Israël, hein, avec des conditions extraordinairement favorables aux échanges, l'Union européenne, c'est-à-dire qui fait d'Israël un quasi-partenaire à part égale, comme s'il était membre de l'Union européenne. Donc, Agrexco s'est effondré. Alors, après, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais il ne s'est pas effondré à cause du BDS ». Il y a eu un BDS très conséquent en Europe contre Agrexco. Alors après, il y a des choses qui sont multifactorielles. Et évidemment, selon qui les présente, les Israéliens n'auront pas envie de dire que le BDS a joué. Teva a perdu beaucoup d'argent suite à la campagne contre le... Teva, vous savez ce que c'est? C'est le...
Médicament générique.
Le générique.
Pas seulement.
C'est l'énorme fabrique de générique mondial. En recul très important. En Israël même, ils évaluaient à 11% la baisse de l'activité économique due au BDS. Sans parler du fait que en Israël, tous les journaux sont pleins de ça sans arrêt. C'est impressionnant de lire la presse israélienne de quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qu'il faut dire, et qui a été dit notamment au niveau du boycott universitaire par des présidents d'universités israéliens. Ils disent... ne vous fiez pas aux apparences qui montrent que la coopération israélo-franco-israélienne marche, ou européenne-israélienne marche. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un boycott rampant, un boycott qui ne dit pas son nom. Comme les gens ont peur d'avoir des ennuis et d'être taxés d'antisémites, ils vont chercher des prétextes pour ne pas mettre en place réellement jusqu'au bout les coopérations. Ils vont dire « Ah ben, cette année, on n'a pas eu le budget, mais on l'aura l'an prochain ». Il y a des professeurs qui devaient être invités dans des cadres universitaires, etc., qui ne le sont pas. Une autre chose qui doit alimenter le boycott universitaire, excuse-moi d'avoir embrayé du coup sur le boycott universitaire aussi, c'est la connaissance des universités israéliennes, qui sont toutes de A à Z affiliées, intégrées au système militaire et au système de l'occupation. Ça, il y a des petits bouquins très informatifs et réalisés par la campagne BDS France qui montrent comment, pour chaque université, vous avez une coopération avec l'université de Beersheba, prenez le petit bouquin, ouvrez l'université de Beersheba, vous allez voir la liste des coopérations militaires, etc. La plupart des groupes universitaires, des directions universitaires, sont tenues par des généraux à la retraite aussi, c'est pareil, c'est militaire. Mais il y a eu un impact, mais un impact économique évident, donc la meilleure preuve, c'est la mise en place du système de lutte contre le BDS. Un ministère spécial qui regroupe trois ministères, les affaires étrangères, la propagande et j'en oublie un, avec une attribution de budget extraordinaire.
30 millions en 2016, 30 millions d'euros.
Avec donc les croisements de qu'est-ce que c'est, culture, propagande et...
Affaires étrangères,
quelque chose comme ça. Mais le boycott qui fait le plus mal à Israël, tout le temps, et il ne faut jamais l'oublier, c'est le boycott culturel. C'est l'image. Toucher l'image les rend malades, parce que tout, on est dans le mot mirage est vraiment excellent, parce que on est dans les faux semblants. Israël fait semblant d'être une démocratie occidentale, Israël fait semblant d'être un État impeccable, etc., etc. Toucher à ça, c'est ce qui les rend, c'est ce qui les affecte le plus. Donc, et là, le boycott culturel, c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé de toucher les Israéliens même directement. On touche nos artistes, nos écrivains. Ça veut dire écrire en France à un Français en lui disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas »
Sur les fruits et légumes, je voudrais y revenir aussi. C'est vrai qu'on c'est difficile d'avoir des statistiques et des chiffres exacts. Et on sait justement à quel point, les enseignes, notamment, il y a quelque chose de très commun. Il y a aussi quelque chose que vous savez, et vous avez dû le voir en faisant vos courses certainement, c'est qu'il y a aussi de la tromperie souvent, du double étiquetage Israël/Pérou, Israël/Mexique, etc. Et ça, en fait, du coup, c'est pour ça qu'on invite vraiment à contacter la répression des fraudes, etc. Mais ça fait partie de ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel nous, on travaille en ce moment. C'est vraiment un travail aussi en direction. Alors, ça peut paraître naturel, mais il faut savoir que malheureusement, dans beaucoup d'enseignes bio aujourd'hui, il y a énormément de produits israéliens. Et ça continue, et c'est en France. Il y a un travail qu'on a fait en direction d'une enseigne bio, de deux enseignes bio, qui ont fini par comprendre, avec aussi de l'argumentation de notre part, mais que c'était grave de vendre des produits étiquetés Israël en les présentant, dont on sait par ailleurs qu'une bonne partie d'entre eux sont fabriqués dans les colonies. Mais il y a aussi, on a un groupe de travail sur le bio, parce qu'il y a aussi un vrai travail à faire de ce point de vue-là. Et il y a beaucoup d'enseignes, je pense à Naturalia, je pense à Bio C'est Bon. Bio C'est Bon, Naturalia, les principales en fait. Biocop C'est Bon. Des nouveaux Robinson, c'est bon, je ne suis pas en train de faire de la pub,
c'est des victoires aussi. C'est du boulot et c'est des victoires.
Biocop, c'est bon, parce que Biocop, moi qui appartiens au réseau Biocop en Bretagne, ça a été un vote et ça a été un débat passionnant il y a maintenant 5 ans sur l'achat ou non des produits israéliens, un vote de l'ensemble des coopérateurs avec newsletter, argumentation, assemblée générale et tout. Et donc l'assemblée générale de mon Biocop à Vannes a voté majoritairement que nous refusions l'achat de produits israéliens. Derrière Biocop, il y a aussi une autre philosophie moins marchande.
Biocop, c'est beaucoup plus militant que les autres. Mais je vous ai cité les principales. Et ça peut vous paraître naturel que quand on dit bio, on pense éthique, etc. Il y a un travail à faire. Je pense que c'est aussi de l'argumentation. On a un site qui s'appelle bdsfrance.org, qu'on alimente très régulièrement. On publie tous les jours ou presque tous les deux jours de l'info dessus. Sur différentes thématiques et ça concerne aussi des enseignes de type économique aussi quoi.
Il y avait une question là-dedans encore. Après vous.
30 secondes, oui, c'était juste par rapport à votre livre qui par ailleurs est passionnant, Mirage Gay. C'était par rapport au mouvement LGBT en France. Alors moi je suis plus militant dans ce mouvement, je l'ai été. Vous avez parlé des groupes queer ou de groupes radicaux, on va dire, qui s'organisent contre. Mais qu'est-ce qu'il en est du militantisme de masse, entre guillemets, LGBT? Alors j'imagine que l'intérêt LGBT c'est foutu, mais est-ce qu'à l'intérieur il y a encore des bagarres ou pas du tout? Est-ce que c'est complètement déserté au niveau des conflits et les seules réactions sont de l'ordre des queers et des groupes radicaux?
C'est moi juste une autre question, après je te laisse la parole.
D'accord.
Oui, vous avez une question?
Ah oui, super. Ouais. Moi c'était plus en sortant un petit peu de la question du BDS. Comment résister à la colonisation aussi, comment soutenir les personnes sur place? C'est une question que je me pose et peut-être que vous aurez des pistes.
Okay. Je vais répondre aussi.
Soutenir les personnes palestiniennes et peut-être aussi les personnes anti-sionistes.
Ouais. Du coup, je passe la parole à Jean Stern d'abord.
Alors, sur votre question sur les gays, alors je vais aller au-delà des Français, malheureusement, des communautés LGBT en France, aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, etc., à l'exception de l'Espagne, il n'y a eu aucune mobilisation d'aucune sorte massive des gays sur cette question du pinkwashing en général. Il y a une dépolitisation générale, et je vous dirais que pour la France, la communauté gay de masse, je ne sais pas où elle est, en tout cas, pas en termes d'organisation politique, ça c'est tout à fait clair. Deux, le seul pays où il y a eu, après Gaza, Tel Aviv était une fois de plus l'invité d'honneur de l'Orgullo Gay, qui est le jour de la fierté gay à Madrid, et c'était juste quelques jours après l'offensive de Gaza de l'hiver 2009, et les organisateurs ont désinvité Tel Aviv en leur disant « il n'est pas possible qu'on invite des gens qui mènent de telles opérations, etc. » Et les organisateurs de l'Orgullo Gay ont été victimes d'une campagne inouïe. En gros, vous mélangez la politique à la fête, vous êtes des antisémites. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, dans, et je l'ai retrouvé en lisant la presse espagnole, les sites gays, c'est que l'ensemble des arguments de campagne avaient été fournis directement par le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Madrid, par le porte-parole de l'ambassade du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, etc. Donc il y a un rouleau compresseur, et les pauvres Espagnols qui avaient eu le malheur d'inviter, de désinviter, pardon, Tel Aviv, se sont pris une véritable volée de bois vert. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y a eu toutes sortes de news qui avaient été publiées à l'époque sur le site de Tétu, etc. Et je regardais les commentaires, et tous les commentaires, sans exception, étaient défavorables à la politique des organisateurs de l'Orgulugay. Donc on voit bien que là, le compresseur a bien marché. Et sur le deuxième point, bah ça, je voulais rejoindre un peu ce qui a été dit avant, c'est que pour lutter contre le rouleau compresseur de l'université, des universités israéliennes, pour favoriser la coopération, notamment en France, qui est considérée un peu en Israël comme un maillon faible, c'est-à-dire un endroit où il y a peu de sympathie pour Israël, mais où quand même la parole anti-israélienne est considérée comme contenue, notamment par les lois anti-BDS, par les lois anti-boycott, pardon, et aussi par ce poids permanent de l'amalgame anti-sionisme égale antisémitisme, qui a été fait quand même par le président de la République en personne au mois d'août dernier. Donc je crois qu'il y a deux choses à faire. D'abord, il faut aller en Palestine. Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui, quand on est un jeune Français, qu'on a envie de s'engager, ou Française, qu'on a envie de s'engager. Il y a des facs en Palestine, il y a des militants en Palestine, il y a des ONG en Palestine, il y a des gens en Palestine. Et ça m'énerve souvent donc les mots palestiniens, parce que le mot palestinien ne veut pas veut dire quelque chose et ne veut pas dire grand-chose. Il y a toutes sortes de sensibilités, y compris politiques, culturelles, individuelles et tout. Et je crois que pour les Palestiniens, qui, je vous rappelle, sont enfermés à Gaza et dans les territoires, c'est extrêmement important de pouvoir accueillir, dans le cadre universitaire, dans le cadre des facs, que j'ai moi-même pratiqué à deux ou trois reprises avec des étudiants français, et à la condition, parce que c'est très important, vous avez un certain nombre d'organisations, y compris aux États-Unis, c'est la politique de Widerbridge, qui vont proposer aux gens, aux étudiants, un petit tour. Donc on va passer 3 jours à Tel Aviv, 3 jours à Jérusalem, et une demi-journée à Ramallah pour quand même voir la Palestine. Donc ça, les Palestiniens, les autorités, les universitaires palestiniens, les étudiants palestiniens refusent absolument. Donc ça veut dire qu'il faut aussi penser à la Palestine comme ce qu'elle devrait être aujourd'hui, c'est-à-dire un pays.
Je voulais juste dire un mot là-dessus. Il y a eu un moment où Génération Palestine était présent dans les facs et c'était génial parce qu'il organisait des voyages avec des étudiants ou des jeunes travailleurs, d'ailleurs, et travailleuses. C'était très bien dans les territoires occupés et avec des actions de solidarité mais, et aussi des actions de découverte politique. Je ne crois pas qu'il soit actif encore aujourd'hui de cette manière-là, mais des associations qui aident la Palestine au niveau de la solidarité personne to personne, il y en a. Il y a la FPS qui organise les missions cueillette des olives pour aider les Palestiniens qui sont menacés par les colons. Mais j'ai envie de vous dire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, au moment où on a trouvé l'outil de choc, celui qui fait mal et celui qui marche, on ne s'en servirait pas. Je veux dire, on l'a l'outil. On l'a, il existe et il avance. Les gens du BNC, du Bureau National Palestinien du BDS, ils disent on va 100 fois plus vite que l'apartheid, que la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. C'est comme s'il y avait la peur, au fond, de toucher Israël. Quand ça lui fait mal, ça dérange des gens. Il y a des gens, dans le mouvement de solidarité, hein, je parle pas de nos adversaires, qui disent « Ah ben non, quand même, vous occupez de tous les produits, alors qu'il n'y a que les produits des colonies qu'il faudrait attaquer. Non, mais quand même quoi ?» Je veux dire, c'est une guerre qui est une guerre de destruction de la Palestine et des Palestiniens. Il y a un outil précis, il est pacifique, non-violent, démocratique, citoyen, il marche, il fait mal aux Israéliens et il leur fait prendre conscience. Peut-être, ça, ça va être long, hein, la prise de conscience. Mais au moins, dans un deuxième temps, il est amené à faire prendre conscience que ce qui se passe est inadmissible, est inhumain, ne correspond à aucune norme, d'aucun régime de droit au monde. Il n'y a aucune raison de l'accepter. Et c'est là qu'on aurait des hésitations.
Moi, je voudrais dire aussi que c'est, pour répondre aussi à ta question, que je pense aussi que c'est vraiment très important, enfin, si on a la possibilité et l'opportunité d'aller là-bas. C'est vrai qu'on peut bien sûr militer sans y être allé, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important pour ceux qui en ont la possibilité de voir la situation. Moi, je vais vous donner mon expérience personnelle. J'étais sympathisante et en 2005, moi, ma première mission, c'était en 2005. Je suis partie à l'époque avec les missions civiles et c'est à mon retour, c'est une fois que j'ai vu, en fait, moi, il m'a fallu voir. Il y a des gens à qui il ne faut pas forcément voir. Moi, c'est en voyant les checkpoints, en voyant les colonies que j'ai pu identifier. Comme je dis souvent, quand on va là-bas, c'est comme si on avait lu 20 livres sur la question. On comprend tout, on revient avec des outils de compréhension et on sait pourquoi on agit et pourquoi on milite aussi. Bien sûr, on peut aussi militer sans partir, mais je pense que voilà, pour ceux qui en ont la possibilité, c'est vraiment quelque chose qu'on peut recommander. Quoi.
Je suis désolé, en fait, on va après continuer la discussion ailleurs, parce qu'en fait, il y a un autre atelier après.
Au café.
Du coup, on va, voilà, mais de toute façon, les intervenants restent dans les lieux normalement. Du coup, merci, merci beaucoup. Je rappelle juste. Je rappelle juste que ce soir à 19h, il y a une plénière à la Bourse du Travail de Saint-Denis avec Tariq Ali, dont le livre Les Dilemmes de Lénine va être traduit très prochainement. Mathieu Renaud, dont le livre Lénine et les musulmans sur Lénine et les musulmans de Russie va bientôt paraître. Antonio Negri sur Retour sur les 33 lezioni di Lénine. Et Andreas Malm, voilà, sur son livre L'Anthropocène contre l'histoire.
Ouais. Et si jamais vous êtes à la fête de l'UMA demain, à 13h30 sur le stand BDS UJFP d'ailleurs, mais il y a un grand stand BDS, il y aura des débats l'après-midi et dimanche aussi l'après-midi. Et nous, on montrera 10 clips vidéo, paroles juives contre le racisme.
On est à l'avenue Simon Bolivar, Village du Monde.